forêt, nos différences.
In 500 meters, go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre les pages, 160e du nom. Est-il possible de faire paisiblement, normalement, une émission de littérature en ce 8 octobre 2025? Ce qui laisserait penser que moi, animateur, ne serais soucieux que du superflu, du supplément d'âme, presque du vernis culturel, loin des contingences et des trivialités de la vie en société. Mais ce monde est si bizarre, si irréel, à se demander si le marasme dans lequel nous sommes englués va trouver une résolution hors de la colère. Pourtant, croire que justement c'est dans cet interstice, dans cette respiration, dans l'humain vivant et dans sa capacité à créer, qu'impossible est possible. Alors je persiste et j'ouvre la porte du studio aujourd'hui à deux voix du monde des livres en Anjou qui font toutes deux leur rentrée littéraire. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Daniel Bourion.
Bonjour.
Bonjour Bruno Luongo.
Bonjour.
Commençons par vous, Bruno Luongo. Pour vous, c'est une rentrée pour un troisième acte. C'est la fin d'une saga que vous livrez, la fin des aventures de Vincent Scotto, après les Philippines.
Pierre Scotto.
C'est terrible. Déjà, j'avais déjà fait l'erreur. Donc, ce n'est pas le Vincent Scotto corse, mais le Pierre Scotto de Bruno Luongo, et j'ai bien écrit Vincent Scotto. Hein. Après les Philippines et l'Amérique du Nord, c'est en Algérie que vous le conduisez, et ça s'appelle « Le sang du désert », publié par les éditions Baudelaire. Alors que votre héros a une vie bien rangée, il est propriétaire d'un domaine viticole, il s'est complètement embourgeoisé, et le voilà reparti dans le Sahara. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce lieu pour cette nouvelle aventure?
Ben c'est parti du fait que, comme dans les œuvres précédentes, j'aimais bien mélanger mes personnages fictifs, comme Pierre Scotto, et des personnages qui avaient existé, historiques ou littéraires. Et je voulais, pour cette dernière partie des aventures de Scotto, ben, qu'il rencontre Maupassant, qui est un auteur que j'adore. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter autour de Maupassant? Donc, avant de commencer mon histoire, j'ai revu toute la biographie de Maupassant, et j'y ai trouvé un élément que je ne connaissais pas, c'est que Maupassant, qui écrivait pour des problèmes de journaux parisiens, et notamment pour le journal Le Gaulois, avait été envoyé pendant 4 mois en Algérie pour parler de soulèvement là-bas, déjà à l'époque. Je me suis dit, voilà mon sujet. Donc, ça a été le prétexte pour faire rencontrer Pierre Scotto au début du roman, faire rencontrer Maupassant, pardon, et par la suite, ben, inventer, oui et non, des aventures, puisque je me suis aussi basé sur des écrits de Maupassant que j'ai retrouvés.
Alors, c'est un Maupassant, c'est le Maupassant de la Maison Tellier, c'est le Maupassant de 1881, c'est le Maupassant syphilitique. À cette époque, il est déjà beaucoup diminué. Ce qui n'est pas le cas dans votre roman, on ne le voit pas. Il a des crises.
Il a des crises.
Mais il est plus vivant qu'il n'est vivant en 1881, parce qu'il est vraiment
oui,
fort atteint.
Je n'ai pas voulu trop jouer là-dessus, en fait.
Ouais, il souffre beaucoup. Ouais. À cette époque, il est déjà aveugle d'un œil. Et il écrit, d'ailleurs, en 1881, il écrit à un ami, « T'épate pas si ce n'est pas mon écriture, j'ai un œil qui d'isola à l'autre. » Pour dire l'état de santé de, et il se félicite d'avoir la grande vérole parce qu'il dit enfin je l'ai.
Exactement.
Il y a les aventures dans le sang du désert, mais il me semble que ce soit le contexte historique que vous avez voulu raconter.
Oui, tout à fait, parce que, comment dire, on a entendu de tout et de n'importe quoi par rapport à l'Algérie. Mais il n'empêche qu'on voit que à cette époque, ça explique tout ce qui s'est passé par la suite jusqu'à la guerre d'Algérie et encore maintenant. Et même pas que l'Algérie, même par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que on a toujours l'impression que il y a le problème déjà de la colonisation, qui était un problème qui me touchait parce que j'ai toujours été un peu réfractaire à ce genre de choses. Et aussi, on a tendance soit à critiquer la colonisation et à dire c'est pour aux personnes qui ont subi la colonisation, mais sans voir un petit peu tous les côtés. C'est-à-dire que il n'y a pas que des victimes dans ceux qui subissent la colonisation. Il y a le peuple qui lui effectivement va subir des contraintes, mais aussi ceux qui vont récupérer ces personnes-là pour apporter un autre pouvoir. Et c'est ça qui m'intéressait.
Mmh. C'est-à-dire aller plus loin.
Sinon. Par exemple, en ce qui concerne l'Algérie, au début, les Français colonisateurs ou l'armée n'a pas utilisé les bons moyens pour se faire accepter.
Là, on est dans l'euphémisme. Hein.
Oui, donc imposer notre culture, a voulu faire mourir même le peuple de faim pour obtenir ce qu'il voulait, pour installer des chemins de fer, etc. Et au bout d'un moment, ce peuple a été aidé par des rebelles. Et ces rebelles, au départ, disent voilà, nous combattons contre la France pour libérer l'Algérie de l'envahisseur. C'était ça. Mmh. Donc bien sûr, le peuple il dit, puisque les Français nous font mourir de faim, nous allons suivre ce peuple-là, ces rebelles. Mmh. Mais les rebelles, ils étaient un peu disparates dans le pays, donc pas assez nombreux contre l'armée française. Donc ils ont cherché des alliés. Ces alliés, c'était des voisins, et notamment des califats. Et l'objectif, c'était prendre le pouvoir et imposer une religion extrémiste.
Oui, là on est presque dans l'anachronisme.
Bah oui, bien sûr. Mais oui, déjà à l'époque, il y avait cette volonté.
Mmh. Oui, mais
la seule victime, c'est encore le peuple.
Donc ça, c'était l'envie. Alors, première envie, mot passant. Oui. Voilà, c'est comme oui. Et ça aurait été en Sibérie, vous auriez raconté.
Peut-être, oui. Enfin, il fallait quand même quelque chose qui m'attire.
Ouais.
Après, j'aurais peut-être changé.
Donc a priori, la Sibérie, ça vous attire pas. Donc, Maupassant, concours de circonstances, l'Algérie. Alors moi, ça m'a permis de découvrir cet aspect de Maupassant que je ne connaissais pas du tout. Hein. Au départ, je me suis dit, il est quand même balèze ce Bruno, parce qu'il va nous emmène tranquillement. Il prend Maupassant, il l'emmène en Algérie, et moi, on connaît pas tout, bien évidemment. Mm-hmm. Donc je ne connais pas l'histoire de Maupassant. Je connaissais son écriture, je connais sa maladie, mais je ne connais pas toutes les péripéties de sa vie. Donc Maupassant, heureux hasard, l'Algérie. À partir de là, il faut commencer à bâtir une fiction. Cette fiction, comment vous l'avez bâtie? Parce que votre personnage, quand il est arrivé dans les îles aux Philippines, quand il est allé en Amérique du Nord, au départ, il est paisible. Mais il faut inventer une histoire quand même. Hein. Faut fabriquer une fiction quand même.
Oui,
comment vous l'avez fabriquée, cette fiction?
Cette fiction, il fallait que je joue sur deux tableaux. Il fallait que je joue sur la personnalité de Maupassant sans trop axer sur tout ce qu'on savait déjà sur Maupassant. Parce que je me suis dit, bon, tout le monde le sait, et ça n'a pas forcément apporté beaucoup de choses. Ça a même me porté des contraintes par mon histoire. Et en même temps, je voulais essayer, tout en montrant l'histoire telle qu'elle s'est passée, et en m'appuyant sur les textes de Maupassant, puisque tout ce que je vous ai dit avant, c'est Maupassant aussi qui l'a dit dans ses articles. C'est montrer aussi qu'elles étaient un peu la physionomie de tous les gens qui étaient sur place, c'est-à-dire les soldats français, le peuple en général, les rebelles, mais aussi ceux qui vivaient normalement, même des Français qui, eux, s'entendaient très bien avec les Arabes et qui vivaient en parfaite harmonie.
En parfaite harmonie, mais vous dites bien, quand Maupassant Pierre Scotto, j'allais dire, ma langue allait fourcher à nouveau sur le prénom. Et Pierre Scotto, quand ils arrivent quand même à Alger, ils arrivent dans des grandes avenues européennes. Oui, enfin, ils arrivent à Paris, quoi.
Oui, bah, disons, il y a une différence, effectivement, entre des grandes villes comme Alger et l'arrière-pays. Ceux qui, par exemple, les Français qui étaient dans l'arrière-pays, c'était différent. Ils se mettaient j'avais plus sa population. Les villes comme Alger, enfin, à l'époque, effectivement.
Oui, le centre d'Alger.
Oui, oui. Il y avait les quartiers, on va dire, des Occidentaux et les quartiers, des locaux.
Dont le palais du gouverneur, immense, pas choucroute, immense meringue, sur la colline.
Exactement.
En lisant ce livre, moi j'ai ressenti une vraie volonté didactique derrière. L'envie, en plus de raconter une histoire, d'aventure, en fait, des aventures, mais l'envie de tenir un propos et d'expliquer aux gens que, par exemple, finalement, donner les bases de la compréhension de l'Algérie moderne, que cette Algérie moderne, elle n'est pas issue de n'importe quoi. Je pense que, est-ce que c'est votre côté un peu, dans votre ancien métier qui resurgit tout d'un coup?
Oh, c'est fort possible. Oui. C'est fort possible. Ouais. C'est fort possible, bien sûr. Oui, j'ai voulu associer la littérature, l'histoire et montrer aussi, en fait, que on peut pas avoir un avis tout à fait tranché sur un peuple par rapport à l'histoire. Il faut essayer de voir un peu tout des tenants et aboutissants. Enfin, quand on a ce qu'il faut, bien sûr. Et je voulais aussi montrer que tout le monde peut être humain, même ceux qui semblent même les rebelles, ils avaient un côté humain, mais.
C'était des humains, attention, je le rappelle.
Non, bien sûr, mais je veux dire, on a tendance à dire les méchants et les bons d'un côté, mais ils ont tous un bon côté, mais on peut expliquer pourquoi ils n'ont pas forcément choisi la bonne voie.
D'accord. Vous avez parlé, votre passion pour Guy de Maupassant, et j'imagine que dans votre passion pour Guy de Maupassant, la Maison Tellier en fait partie, puisque c'est pas le cœur. Mais en tout cas, c'est la fin du roman, ça c'est clair, ça revient de manière récurrente, et puis c'est la fin du roman. Donc il y a cette passion pour Guy de Maupassant, mais la conscience aussi de pas tout en connaître, donc il faut se documenter. Maintenant, j'imagine aussi que l'histoire de l'Algérie, vous la connaissiez pas sur le bout des doigts, ça a été un gros travail de documentation.
Ah bah bien sûr, ouais. je dirais que... Ça m'a pris la moitié du temps de la conception de ce livre. Les recherches, bien entendu, et savoir ce que je pouvais utiliser, pas utiliser, et puis j'ai appris plein de choses. Comment je pouvais l'incorporer, quand je trouvais que c'était intéressant, comment je pouvais l'incorporer dans le roman, puisque j'ai toujours ma finalité où je vais aller, mais de temps en temps, en écrivant, me viennent d'autres idées par rapport à ce que j'ai trouvé. Et voir si je peux l'insérer. Alors, on utilise plein de choses, on utilise même des choses qu'on a connues. Alors, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire, il y a un moment donné, Maupassant, ils vont rejoindre les rebelles, et Maupassant, comme Pierre Scotto, ne sont jamais montés sur un dromadaire. Et ils ont un peu de crainte pour monter dessus, et à un moment donné, Maupassant, il veut monter sur le dromadaire, et le dromadaire se soulève trop rapidement, et Maupassant tombe en arrière, c'est le côté anecdotique. Bon, en fait, c'est parce que ça m'est arrivé vraiment à moi.
Comme quoi, il y a toujours. On le verra. Voilà. On le verra tout à l'heure avec l'invité suivant. Il y a toujours du vécu quelque part.
Oui.
Il y avait aussi l'envie de brosser une époque, l'air d'une époque. Ça commence. Le roman commence avec les salons parisiens, voilà. Paul Bourget, tout ça. Ça aussi, ça a été un gros travail de documentation parce que vous nous racontez les méandres de cette vie parisienne complètement folle, la nuit, tous les auteurs qui se croisaient, qui se rencontraient. Ça aussi, ça a été un gros travail de documentation.
Oui, puis c'est aussi une période que j'affectionne particulièrement. J'imagine bien. Enfin, j'aurais aimé vivre cette époque-là et voilà, c'était très riche au niveau. À tout point de vue, aussi bien des évolutions de la civilisation qu'au niveau de justement littéraire et artistique. Et d'ailleurs, j'en avais déjà mis une petite touche dans le roman précédent, où avant de partir aux États-Unis, ils avaient fait aussi une halte à Paris. Ils avaient déjà apprécié une certaine boisson interdite.
Ah, parce que oui, à l'époque, il y avait des boissons. Je sais pas, je pense pas qu'elles étaient interdites à l'époque.
Mais non, mais interdites maintenant.
Interdites maintenant. On fumait et on se piquait à l'opium. Enfin voilà. Bon, bref, c'était, ça existait. En tout cas, ça existait. Mmh. Et là, on peut pas dire sans modération parce que c'était interdit. Donc, c'est encore interdit aujourd'hui. La manière dont vous racontez votre histoire, c'est, alors moi, ça m'a fait penser très. C'est pas. Je l'ai déjà vécu dans vos précédents livres. Moi, j'ai pensé à Jules Verne.
Ah ouais, c'est sympa.
Dans la manière dont l'histoire est écrite, c'est-à-dire, c'est une histoire qui cavale un peu. Voilà, il y a du rebondissement. Alors, elle est écrite sous forme de chapitres courts, voire très courts.
Ça fait.
Hein. Oui. Moi, j'ai pensé. Alors, vous avez dit que cette époque vous passionnait. Vous auriez aimé être un auteur, un feuilletoniste de la fin du 19e siècle?
Ah oui, oui, tout à fait.
Ouais. Oui. Ben, on retrouve ça. Hein, dans le, il manque peut-être à la fin de certains paragraphes un petit cliffhanger qui hop, permet de dire au lecteur demain, l'épisode suivant, c'est demain.
Mais il y a aussi peut-être une explication à ça. Ben, oui. C'est justement, quand vous me posez cette question-là, je viens de prendre presque conscience maintenant. C'est que, en fait, avant de me mettre à écrire des romans, j'écrivais des nouvelles. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a ce côté aussi dans les nouvelles, on aime bien des petites histoires comme ça et qui se terminent et après on peut reprendre éventuellement une autre histoire.
Alors, cela dit, chapitre court, c'est clair, mais histoire cohérente, enfin histoire qui se tient de bout en bout, c'est pour ça qu'à un moment donné je parle de Jules Verne, parce qu'on est dans... il s'avère que j'ai dû lire il y a 2 ans beaucoup de Jules Verne, j'ai dû relire beaucoup de Jules Verne, et donc je me suis dit, tiens, ça fait écho dans mes lectures ouais. Et donc dans toute cette littérature du 19e ben Maupassant bien sûr, mais Jules Verne beaucoup, Alexandre Dumas, enfin c'est
oui, ça bien sûr, mais
c'est très en écho.
Oui, effectivement, c'est tout ce que je disais ado et que j'ai toujours aimé même après par la suite. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'autres personnes m'ont parlé aussi de Jules Verne, mais aussi m'ont parlé d'Hergé. Parce qu'ils ont estimé que ça faisait un peu style, un peu Tintin qui partait à l'aventure, parfois. Mmh. Mmh.
Alors, spontanément, ça m'est pas venu à l'idée. Je l'avoue, moi, je suis resté dans des classiques.
Oui, mais bon.
Même si
pas.
J'aime beaucoup.
Mais pourquoi pas?
Donc, alors moi, j'ai l'impression que vous écrivez vite. Hein.
Oui, mais,
parce
oui.
que les 3 romans, là, ils ont été écrits en combien de temps?
Le premier, j'ai été très rapide. Mmh. 5 mois, carrément. Ouais. Le deuxième, 8 mois. Oui. Le troisième aussi, à peu près 8 mois, je crois.
Oui, mais quand je dis très vite, c'est que dans le
oui,
temps.
Oui, dans le temps, physique, ben ça fait, oui, en 3 ans, 3 romans.
Oui. Donc c'est, là, vous êtes au rythme. En fait, vous êtes au bon tempo des auteurs du 19e siècle, hein. C'est comme ça qu'ils écrivaient, hein.
Alors, je vous avoue que là, je suis en plein dans le 4e, j'ai déjà écrit 100 pages.
Donc, ben, on va
mais
attendre.
Mais c'est autre chose.
On a bien compris que Pierre Scotto, c'était fini.
Oui, alors pourquoi? Peut-être c'est une question oui. que vous posez.
Bon, alors, allez-y, faites les questions et les réponses. Moi,
Non, mais je sais qu'on pourrait se demander pourquoi, puisqu'il a fait 3.
Alors, on va le faire clairement. Mais dites-moi, Bruno Longo, pourquoi la fin des aventures de Pierre Scotto?
Tout simplement parce que, même si j'aime beaucoup mon Pierre Scotto, je voulais pas être prisonnier de ce personnage et toujours de la même période. J'avais d'autres idées, d'autres envies, donc je me suis dit, c'est bien, 3 livres, ça fait une trilogie, c'est sympa. Prenons des risques, faisons autre chose.
Voilà. Alors, juste pour nous donner un avant-goût, quelle époque pour le prochain roman?
La période actuelle.
Bien.
Donc ça commence en 2023.
Voilà. Ouais. Donc ça peut pas être Tino Rossi parce qu'il est mort.
Non. Alors là, il y aura pas forcément de rencontre de personnages connus.
Ok.
Mais c'est vraiment une histoire qui, comme, ah, je vais pas trop vous dévoiler. Mais il y aura du mystère. Quoi.
Gardons-en pour la suite. Ben Bruno Longo, moi je vais vous remercier d'être venu présenter donc ce roman qui s'appelle
Le sang du désert.
Le sang du désert, qui est publié par les éditions Baudelaire, livre que moi j'ai lu avec j'aime bien les livres d'aventure, donc je l'ai lu comme ça. Enfin, je l'ai lu exactement comme un livre d'aventure qui est bien documenté, on y apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai eu beaucoup recours au dictionnaire hein, pour retrouver, vérifier les événements. Enfin, il y avait plein de choses dont j'avais besoin de m'assurer. Et je trouve que vous avez fait un beau travail historique en réalité.
Merci.
Et puis une fiction d'aventure qui est tout à fait passionnante. Et je vous propose de faire une pause musicale.
n'étais pas. Suis-je un océan? Une chapelle liquide, 5 litres de sang. Suis-je l'Atlantide? Dans un récipient, des vaisseaux d'hirondelles, des tickets perdants. J'ai l'âge de la lune et des rires des ruisseaux. J'ai les mille yeux de la forêt, plus vieille que les mots. J'ai l'âge de la lune et des rires des ruisseaux. J'ai les mille yeux de la forêt, plus vieille que les mots. J'ai l'âge de la lune. Plus vieille que les mots. Suis-je une fontaine, galop de diamants, des amours lointaines dans l'île du torrent? T'inquiète pas, ça va, je suis un vieux moulin où passe le courant du jour qui revient. De la lune et des rires des ruisseaux. J'ai les yeux de la forêt, plus vieille que les mots. J'ai l'âge de la lune et des rires des ruisseaux. J'ai les yeux de la forêt, plus vieille que les mots. Chapelle liquide, 5 litres de sang. Suis-je l'Atlantide? Dans un récipient, des vaisseaux d'hirondelles, des tickets perdants.
Grise Corna qui a chanté J'ai l'âge de la lune, et vous êtes bien sur Radio G, fréquence 100.5, et surtout, devrais-je dire, vous écoutez Entre les pages. Bonjour Daniel Bourion.
Bonjour.
Vous vous revendiquez bibliothécaire, c'est votre métier, mais vous êtes professionnellement responsable du service de transformation numérique de l'Université d'Angers. Là, c'est un titre très long, non?
Oui, le titre est très très long. Il n'y avait pas plus de place sur la carte de visite, donc on s'est arrêté à ce titre-là.
Dans votre fiche de présentation sur le site Mobilis, on dit que vous considérez Internet comme le bouleversement le plus désirable dont puisse rêver un écrivain, et que vous vous définissez en conséquence comme un migrant numérique. Vous continuez à l'affirmer au moment de l'envahissement de l'intelligence artificielle générative?
Ça, c'est une très bonne question. À froid.
Ben, merci. Merci, mais c'est comme ça, c'est le but de l'émission, c'est un peu de...
Alors, oui, sous condition que la maîtrise des sites, moi, en l'occurrence, c'est un site, à condition que la maîtrise des sites web reste dans la main de leurs producteurs. C'est sûr qu'à partir du moment où on se dit que je vais abandonner mon site et la gestion de mon site à une intelligence artificielle, j'avoue que ça sera pas une très bonne idée.
Oui. Ouais, vous êtes partisan, je pense, hein, de ce que j'ai lu, du logiciel libre, des systèmes, des applications libres, oui. Enfin bon, de tout ce qui rend l'utilisateur intelligent.
Intelligent et autonome. Oui. Et moi, je fais confiance à l'autonomie, à l'intelligence des gens, Or, effectivement, pour ce qui est de Internet et des outils numériques, on est quand même en train de voir émerger des grosses plateformes privées qui nous défendent notre possibilité de gérer notre vie numérique et par conséquent une partie de notre vie aussi. Donc, oui, je pense que c'est très, très important.
Si j'en crois les médias, vous venez de publier votre premier roman. Sous-entendu, vous êtes un nouveau venu dans le paysage de la littérature. Donc, vous êtes présenté comme un petit génie parce que c'est vrai, votre roman est véritablement exceptionnel. Ah là là, ce que sont les médias, certains comme le journal Le Monde sont quand même allés beaucoup plus loin. Sur votre blog site Face Écran, on se rend compte que vous publiez depuis 1996. J'ai recensé 18 recueils et textes longs, de nombreuses publications en revue, dont la bien connue ici et ex-N4728, et puis une foultitude de publications en revue. Ça vous dérange cette altération de la réalité ?
Non, parce qu'on peut considérer que ce livre-là est le premier roman que j'assume comme tel. Et on peut dire aussi que toutes les publications qui ont eu lieu auparavant, c'était des galops d'essai. Moi, je considère un peu ça comme des gammes, en fait. Et en fait, quand je regarde l'intégralité de ce que j'ai pu produire, il y a une espèce de montée en puissance, c'est-à-dire que je suis un timide de la plume. Et j'ai mis beaucoup de temps à simplement pouvoir dire la phrase que je vais dire maintenant, je suis écrivain. Ça a été très compliqué pour moi de le dire. Et donc, là, j'en dans une phase où effectivement, il y a une visibilité qui est en train de se faire. Je pense que j'arrive à une certaine maturité d'écriture. Alors, on va me dire, mon coco, t'es quand même plus tout jeune. Donc, ouais. Effectivement, je suis lent. Enfin, j'ai mis du temps à monter à cheval. Et donc, non, ça me dérange pas du tout.
30 années.
Oui.
30 années de gamme.
Oui.
Mais quand même.
Je suis laborieux.
Laborieux, mais quand même. Parce que 30 années de gamme, faut le dire, hein, pour un livre qui fait 120 pages, hein, quand même. Hein.
Oui, bah, j'ai
laborieux, mais besogneux, on pourrait dire.
Non, mais oui. Mais c'est. Moi, j'aime beaucoup les formes courtes. J'aime beaucoup les textes très denses. Et je suis un peu chagriné aussi de voir des romans de plus longs. Alors j'aime bien les romans très longs, etc. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'inflation dans la longueur des textes. Alors, un certain nombre d'entre eux tiennent parfaitement les 700-800 pages et c'est parfait. Et puis j'en lis aussi sur lesquels en arrivant au bout du lit, je me dis « Waouh, c'est vraiment bien, mais il y a 100 pages de trop. » Et c'est un peu la même inflation que je peux voir au cinéma. On voit arriver des films de 2h30, 3h. Et bon, alors peut-être que c'est ma capacité d'attention qui diminue avec l'âge, et je ne sais pas, mais voilà. Donc j'ai voulu, et je vais de plus en plus dans ce que je produis, vers des choses de plus en plus denses. Le challenge étant que ça ne soit pas dense au point de perdre le lecteur. Parce que là, je raterais complètement mon coup. Mmh. Donc je suis toujours sur ce fil un petit peu de.
On va y venir. Ce roman que vous venez de publier aux éditions Héloïse d'Ormesson, Le pays dont tu as marché la terre, vous le placez, donc, en fait, dans votre travail d'écriture, vous le placez au bout. En fait, c'est un aboutissement.
Alors, c'est un aboutissement de phase.
Oui.
D'une phase. Là, maintenant, je travaille sur une suite et des suites qui, du point de vue narratif, c'est pas une suite, mais d'un point de vue conceptuel, je vais essayer de faire, enfin, les manuscrits sont déjà prêts. Je vais essayer de faire quelque chose qui se tienne conceptuellement.
Parce que et là, donc c'est un roman, c'est du papier. Vous, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, qui êtes un homme du numérique, hein, avec une croyance forte. Mais là, vous êtes un proche cousin de François Bon. Hein, vous partagez la même vision du numérique, du rapport entre la littérature, l'écriture et le numérique. On peut dire ça, hein. Malgré tout, ce passage au papier, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de passer au papier? Parce que vous avez eu envie de passer au papier.
C'est une opportunité, c'est-à-dire c'est la rencontre avec un éditeur, enfin une maison d'édition.
Le hasard,
c'est-à-dire le hasard a fait qu'on s'est croisés, oui.
Oui, mais conséquence de ce hasard et de cette rencontre, publication.
Publication, oui. Mm-hmm.
C'est quoi le départ de l'écriture de ce roman?
Alors, c'est un roman qui est très inspiré d'événements réels que j'ai connus. Le point de départ, c'est... donc, je viens d'un tout petit village de Lorraine. on en a parlé un peu hors antenne, au fin fond de la Moselle profonde, dans un village de 300 habitants.
Pas loin de Saint-Avold.
Ouais, pas loin de Saint-Avold, ouais. Voilà, donc on est vraiment à la limite.
Vraiment loin, quoi.
On est vraiment loin. Alors, ça dépend loin de quoi, en tout cas, on est loin de Paris.
Je pense qu'on est loin de tout.
Non, de l'autre côté, on va être très proche, on est en Allemagne directement, Sarrebruck est très très proche, donc c'est un tout petit village, évidemment tout le monde se connaît, hein, comme dans tous les tout petits villages, et vraiment le point de rencontre, le point de départ, c'est, j'avais des amis d'enfance, comme tout le monde dans un petit village, dont un ami avec qui j'ai passé la plupart de mes mercredis, samedis, jusqu'au collège à peu près, à faire toutes les âneries que des garçons peuvent faire dans un village, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, pas de rien. Donc on faisait les cons dans les champs, quoi, tout simplement, ce qui est un jeu que je conseille à tout le monde, et des cabanes, etc. Donc on était vraiment de bons amis. Et puis au collège, il s'est déscolarisé. Moi, j'ai continué, j'ai fait des études à Metz, dont on parlait aussi, etc. Et on ne s'est plus vu pendant presque 20 ans. Épisodiquement, voilà, au coin d'une fête du village, on se recroisait, puis on arrêtait de se voir. Et moi, j'ai appris son décès en 2014, un décès brutal, une annonce brutale, et donc ça a été vraiment le choc déclencheur, pas du roman, d'un premier texte qui faisait l'équivalent d'un A4 que j'ai posé sur mon site web, parce que le site web il a aussi cette fonction de pas d'atelier d'écriture, mais d'atelier à ciel ouvert dans lequel je pose des fragments. Et ensuite, j'ai oublié ce texte, littéralement. J'oublie beaucoup de choses.
Oui,
Il y a 2-3 ans, en rangeant des papiers chez mes parents, je suis tombé sur une photo de classe de l'époque. Alors évidemment, je retrouve tous mes amis, et à ma grande surprise, le copain en question n'était pas sur la photo de classe. Et en recherchant toutes les photos de classe de l'époque, je me suis aperçu qu'il n'était jamais sur la photo de classe. Alors c'est pour qui a vécu dans un village de 300 habitants dans les années 70, ne pas être sur la photo de classe une fois, passe encore, ne jamais être sur la photo de classe, il y a un loup, quoi. Donc c'est ça qui a déclenché la vraie écriture du roman, en fait.
Alors, ouais, vous venez de dire deux oublis. L'oubli, et c'est l'histoire, enfin, ce roman raconte une quête impossible, c'est-à-dire la reconstruction de quelque chose qui, de toute façon, logiquement, le narrateur, il sait que c'est peine perdue parce que il a les tenants et les aboutissants, et combler tous les espaces vides, ben, ça va être impossible.
Ça va être impossible. Alors, je le savais au départ. Je ne voulais pas les combler. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir une démarche quasiment d'enquête, retourner dans le village, ma famille est toujours retournée dans le village, aller voir les différents acteurs de l'époque et avoir mené des entretiens avec ces personnes-là pour essayer de reconstituer ce qui pouvait l'être. J'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit on dérange pas les morts. Voilà. Et je n'ai pas voulu non plus, j'aurais aussi pu avoir un complément à cette démarche, c'est d'aller dans les archives et les archives départementales, essayer de reconstituer l'arbre généalogique de la personne qui a inspiré le roman, etc. Et là, je l'ai pas fait parce que d'une, je suis une grosse feignasse, et de deux, je voulais vraiment essayer de voir qu'est-ce que je pouvais reconstruire de cette personne qui inspire le personnage principal, on va dire, complètement absent, en fait. Qu'est-ce qu'il en restait dans ma mémoire? Donc vraiment, je me suis dit, le temps défait tout. Qu'est-ce qu'il a défait de mes souvenirs de ce garçon que j'ai beaucoup connu? Et effectivement, la conclusion, c'est que il en reste pas grand-chose. Effectivement, c'est une mission impossible, mais j'y suis allé avec tout mon enthousiasme, en sachant d'emblée que ça allait être impossible.
Alors, raconter comme ça. Ça semble anecdotique. Je le dis, ça semble, ben voilà, il y a une histoire, j'ai eu un ami, je l'ai perdu de vue, et puis je cherche. C'est anecdotique. Mais si votre roman n'était que ça, ben ce serait un des livres qui comble les rayonnages des librairies, et je dirais que, ben, on pourrait passer à côté tranquillement. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est qu'il y a votre écriture. Et le cœur du roman, il est dans votre écriture. Et moi, je dirais que ça commence déjà par le titre. Le pays dont tu as marché la terre. Déjà, vous attaquez fort puisque vous rendez un verbe intransitif transitif. Et vous posez, en posant ce titre-là, et tout le roman, à mon avis, est dans ce titre-là, dans le passage de l'intransitif au transitif. Je trouve que c'est impressionnant parce que moi, j'ai lu ce titre combien de fois ? 20 fois ? 30 fois ? Pour comprendre ce que ce titre me disait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre écriture, donc c'est le travail sur l'écriture qui vous intéresse. C'est quoi votre approche de la langue, cette approche de la langue, c'est-à-dire cette transformation qu'on retrouve dans le roman en permanence, vraiment en permanence. C'est quoi ? Ça procède de quoi ?
Ça procède de mon histoire personnelle, puisque, on l'a dit tout à l'heure, je suis né en Moselle-Est, dans la partie Lorraine, enfin de Lorraine, où on parlait encore jusque tout récemment un patois germanique, le plat, qui est donc très proche de l'allemand, puisque c'est la partie Concordat qui était allemande, française, etc. À force, on ne sait plus trop. C'est cette région qui sert de paillasson à toutes les troupes qui passent. Voilà. et donc. Je pense une grande partie de mon écriture procède du fait que moi, jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai parlé le plat et la langue, le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'école, donc les photos de classe, etc., avec des bonnes sœurs. Dès l'âge de 3 ans, il y avait une espèce de garderie, école maternelle, où on était encadré par deux bonnes sœurs qui nous ont appris, entre autres choses, à nous moucher et à parler le français. Et dès cet instant-là, mes parents on cessait de nous parler en plat en nous disant puisqu'il faut que vous parliez en français, on va parler en français. Et donc, moi j'ai appris le français à l'école, j'ai oublié le plat malheureusement, je le comprends encore très vaguement, mais je suis incapable de le parler. Je parle le français, je parle un français tout à fait correct, puisque dans mes fonctions de CPE, de conservateur des bibliothèques, j'ai fait des études de lettres, donc je sais écrire un français très classique. Quand je ne suis pas dans la fiction, dès que je commence à travailler sur un texte de fiction, ou en tout cas d'écriture, il se passe un phénomène que je ne m'explique pas et qu'à vrai dire, je laisse faire. C'est que la langue française, j'ai l'impression qu'elle est concurrencée par des structures probablement issues de l'allemand, qui viennent tordre le français. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réfléchi, parce que j'évite de trop réfléchir à ce que je fais. Alors, je ne vais pas dire ça ici, mais voilà.
Si, c'est dit.
Je suis dans l'instinct, moi. Mmh. Et donc, il se passe quelque chose qui est que ce français très classique devient une espèce de pâte à modeler, qui est, j'allais dire, corrodée, mais c'est pas le terme, qui est challengée, mais c'est pas bien parce que c'est un anglicisme, enfin, qui est remise en question par, je pense, des structures grammaticales et une façon de parler qui vient de ce patois germanique.
Vous venez d'expliquer un truc que je pressentait, parce que une des questions que je voulais vous poser, c'est que bien évidemment c'est la langue qui est votre matière, vous la malaxez, vous la travaillez j'avais écrit jusqu'à lui faire rendre gorge. C'est ça votre travail.
Ah oui, moi je cherche la limite, quoi, c'est-à-dire ouais. Je cherche à quel moment une phrase en français, je vais pouvoir la tordre jusqu'à un point de rupture. Oui. Et après, alors le point de rupture, il est quand même assez loin, mmh. avec une autre difficulté qui est de rester lisible quand même. Parce que sinon, on tombe quand même dans une espèce d'excès qui est de dire, regardez, comme je sais jongler, c'est magnifique, je sais faire des phrases complètement incompréhensibles, très torturées, et que personne ne va arriver à lire, même pas moi d'ailleurs, en tant qu'auteur. D'ailleurs, je fais un aparté, dans ma démarche, le chemin d'écriture, j'ai eu une période où je faisais des phrases et des choses tellement compliquées que ensuite, ça me faisait des textes très très courts et je me suis aperçu après coup qu'ils étaient très courts parce que moi-même, en tant qu'auteur, la difficulté était telle que je m'épuisais à écrire ma propre phrase. Donc c'est aussi, ce texte-là, c'est une espèce d'aboutissement dans cette démarche-là où je suis allé très loin, j'ai poussé le curseur peut-être un peu trop loin, je sais pas. Mais enfin, j'assume tout ce que j'ai écrit. Et là, je suis en train de revenir vers quelque chose qui est vraiment sur un fil entre la recherche de la limite et la lisibilité.
Alors, la limite... moi, j'aime pas, dans le domaine de l'art, les choses quand on voit les coutures. Je trouve que ça me dissuade de lire, de regarder un film, ou dès qu'on voit les coutures. Ce qui est fou, c'est que moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai senti votre travail, mais je ne l'ai pas senti comme une épreuve, je l'ai senti presque comme une jouissance, parce que je me suis dit, on peut raconter une histoire en allant aussi loin dans le travail de la langue. Et l'émotion est d'une puissance folle. On est, enfin, quand on arrive au bout du roman, puisque c'est quand même une progression, on avance dans le temps. Enfin, votre recherche avance dans le temps jusqu'à la fin. Il y a une charge émotionnelle qui est complètement dingue.
Mais parce que le sujet est terriblement émotionnel, c'est-à-dire en écrivant ce bouquin, je cherche un mort dont je sais que je ne vais pas le trouver. Et évidemment, en écrivant là-dessus, les souvenirs qui remontent, c'est les souvenirs d'enfance plutôt joyeuse. Hein. Enfin, on a fait beaucoup d'âneries, donc c'était très joyeux. Et quand même, on arrive dans la progression à une fin qui est d'une tristesse insondable, en fait. Et là, on se confronte quand même à quelque chose qui est très très dur, c'est l'espèce d'effacement d'une personne, mais un effacement au sens littéral du terme. Il ne reste strictement rien de cette personne. Même pas la tombe, puisqu'il a été incinéré. Donc là, on tombe dans un gouffre presque d'inhumanité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie de quelqu'un dont il ne reste strictement rien? Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce bouquin, et c'était aussi une partie de mon projet, c'était qu'à minima, la personne qui inspire ce roman-là, elle existe dans les 100 et quelques pages que j'ai pu produire.
Elle existe complètement. Le vide l'a fait exister, l'absence le fait exister. Oui. Est-ce que derrière, nous tous, on est coupables de l'oubli?
Ça, c'est une question aussi très difficile.
Parce que c'est non, ça. Non, mais, ouais. Parce que derrière, moi, j'entends le narrateur, mais je sais que le narrateur, c'est vous. En lisant d'autres choses, je sais que c'est vous le narrateur, et je sens une peine infinie à constater que vous avez oublié.
Oui, ça nous met quand même. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'auteur, ça m'a mis en face de la question qui est qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ce type-là finisse pas sa vie comme ça. Après, je pense aussi que on peut pas sauver le monde entier. Et je veux surtout pas me poser en donneur de leçons, parce que je suis pas là pour ça. Les gens qui me donnent des leçons, moi personnellement, j'aime pas ça, donc je veux pas devenir un donneur de leçons. Donc, dans le roman, je fais un constat qui n'est ni sociologique, ni psychologique, ni politique, ni rien. Je raconte juste une histoire, et je pense que le lecteur ou la lectrice, après, si l'outil qui est le roman fonctionne, vont se poser des questions. Après, chacun gère son quotidien et son entourage comme il l'entend. Voilà. Je ne suis pas un donneur de leçons.
Ce n'est pas du tout le cas dans ce livre. Enfin, moi, j'en recommande la lecture parce que c'est une... Pour un lecteur, c'est un voyage de lecture. Faut pas que j'aille trop dans les... C'est un voyage de lecture, en fait, que tout lecteur rêve de faire. C'est-à-dire qu'on rêve tous de lire ce livre-là. Enfin, moi, en tant que lecteur, chaque fois que j'ouvre un livre, je veux lire un livre comme ça. C'est-à-dire pas votre écriture, pas votre histoire, mais qu'elle me happe et qu'elle aille me chercher moi. Parce que quand je dis, est-ce que vous êtes coupable de cet oubli, je me pose la même question. Est-ce que moi, je suis coupable de mes oublis à moi? Qu'est-ce qu'ils sont devenus mes oublis à moi? Donc vraiment, moi je trouve, enfin je c'est vraiment un livre magnifique. L'histoire se passe, donc on l'a dit, hein, au fin fond de la Lorraine, et c'est pas péjoratif. Alors moi je disais un territoire qui n'est pas nommé. Malgré tout, ce territoire n'est pas nommé. C'est un territoire qui est quasiment universel. Qui n'est pas inscrit dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est pas vrai, il n'est pas dans la diagonale du vide, mais il est proche de partout. En fait, il suffit de sortir un petit peu d'Angers, quoi, de faire 3 km en dehors d'Angers, et on sera dans ce territoire-là. Des chemins, de la boue, un petit hameau, et c'est tout. Et je trouve que cette France racontée là, pas du tout populiste, cette France-là, je la trouve vraiment bien. Écoutez, Daniel Bourrion, moi, je peux que vous dire que j'ai aimé votre livre. C'est idiot, c'est stupide,
c'est
mais voilà,
bien.
Je peux vous dire que ça. Je lui souhaite vraiment longue vie et puis bonne chance, surtout bonne chance, puisque je sais qu'il est, il concourt à certains prix.
Oui.
Donc je lui souhaite bonne chance. Puis on va faire une nouvelle pause musicale.
Merci.
C'était Zenton qui chantait Riverside. Alors, je le dis avec mon accent anglais remarquable. Plus sérieusement, c'est un hommage à Steve Maya Caniso, noyé après une charge brutale de la police lors des fêtes de la musique à Nantes en 2019. Et vous écoutez toujours Entre les pages, et ce n'est que sur Radio G. Eh bien, vous voilà de retour dans l'émission, Simon. Bonjour.
Bonjour.
Après avoir fait des lectures,
oui.
Après être allé au Japon,
oui.
Après avoir mis en scène, vous voilà étudiant. Qu'est-ce que c'est que cette régression?
Pas du tout, pas du tout.
Ah bah si, c'est une régression, ça. C'est...
Plus pour ma défense, je reprends là où j'étais rendu. C'est-à-dire, j'ai repris en master. Donc,
oui, mais
ça reste une progression.
Rendu il y a combien d'années?
Bon, une petite dizaine d'années.
Ça. Voilà. Donc, je dis bien que vous retrouvez les bancs de l'école, les bancs de l'université quand même. Alors, pour un master, c'est quand même, c'est glorieux quand même, hein. Et donc, on a reçu un message là à la radio qui nous parle d'un projet à l'université qui s'appelle Dumas Voyageurs. Dumas Voyageurs, en quelques mots, il s'agit de quoi ?
Il s'agit d'un colloque universitaire qui a lieu cette semaine, jeudi et vendredi.
Oula, non, plus précisément parce que c'est
et pas... Et un colloque universitaire, c'est une réunion...
C'est pas demain et après-demain, c'est...
Non, c'est demain et après-demain.
C'est demain et après-demain ?
Exactement, demain et après-demain.
Ah oui, il est temps qu'on en parle.
Il est grand temps qu'on en parle. Ouais. Et je viens pour en parler parce que je fais partie avec un groupe d'étudiants d'un groupe de valorisation de la recherche. Et on estime qu'il est temps, pour faire valoir l'université qu'on aime, de mettre en valeur la recherche universitaire, notamment dans ces temps qui sont un peu difficiles, où il y a des coupes budgétaires, etc. Et voilà, je viens en radio, j'essaye de contacter la presse pour parler d'événements comme cet événement qui a lieu demain et après-demain à l'université de Belle-Baye, sur le campus de Belle-Baye, dans la maison Germaine Tillion. Et c'est un colloque universitaire, c'est-à-dire c'est une réunion de professeurs spécialistes de Dumas. On va parler de Dumas. Le thème, c'est Dumas Voyageur. Dumas, c'est celui qui a écrit Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, etc. Et c'est les plus grands spécialistes de Dumas qui sont invités à Belle-Baye, qui viennent du monde entier, de la France en particulier, mais on a aussi des invités étrangers. Et qui viennent délivrer le résultat de leurs recherches de ces dernières années, qui viennent échanger autour de c'est quoi Dumas qui voyage, qu'est-ce que ça lui inspire, ses voyages, comment se sert-il de ses voyages pour l'écriture, et pourquoi on voyage aussi au 19e, pourquoi tous ces artistes voyagent, musiciens, écrivains, et on aura la surprise de découvrir ces interventions. C'est des interventions de professeurs qui durent 20 minutes. Mmh. On peut arriver en pleine journée tout en étant respectueux de la prise de parole. C'est-à-dire on attend qu'une conférence se termine et on vient s'asseoir pour celle qui suit. Et ça commence donc demain à 13h, ça termine à 17h et ça reprend vendredi entre 9h45 et 17h.
Alors, vous êtes étudiant en master, c'est-à-dire que vous travaillez, vous travaillez sur un projet de thèse. On parle de thèse ?
Non, il y a un anglicisme qui fait qu'on parle de thèse, mais en général, on parle de mémoire en France pour le master et de thèse pour le doctorat.
Bon, ça aurait fait bien. Hein, on aurait dit thèse, ça aurait été cool, non ? Donc, mémoire. Vous travaillez sur un mémoire. C'est quoi le mémoire sur lequel vous travaillez ? J'imagine que vous avez déjà le nom, qui est un nom à rallonge de toute façon, nécessairement. Non,
pas du tout. Vous avez des a priori très méchants sur l'université.
Pas du tout, du tout, du tout. Mais j'ai reçu tellement d'universitaires avec des noms de thèses, des noms de mémoire pas possibles. Donc, je voudrais celui de votre sujet de mémoire.
Donc, moi, je suis dans le département en littérature. Oui. Et ma spécialité, c'est la littérature de la fin du Moyen-Âge, du 15e. Et je travaille sur la mort et la folie au 15e siècle.
Je disais bien que c'était... En plus, c'est joyeux. Si je pose cette question, c'est pas neutre, bien évidemment. C'est que là, vous venez nous parler d'un projet d'Alexandre Dumas. Donc, on n'est plus au Moyen-Âge. On est à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous l'avez dit, vous intervenez parce que c'est presque une intervention politique. C'est-à-dire, il faut mettre en valeur les projets qui sont portés par l'université. Et moi, je veux m'engager là-dedans. Je veux porter ces projets. Mais votre intérêt pour Dumas, c'est quoi votre intérêt pour Dumas?
Moi, personnellement, mon intérêt pour Dumas, moi, Dumas, il me transporte à travers ma pratique de Dumas en tant qu'amateur, c'est-à-dire en tant qu'amateur lecteur et amateur même spectateur de films.
Ah oui, mais Dumas, il n'a pas fait de film.
Non, mais il y a des films tirés de...
Rassurez-moi.
D'ailleurs, tout ça, on le découvre aussi en assistant à des colloques, c'est-à-dire on rencontre des professeurs qui, plein d'humilité, ne racontent pas forcément, mais... Moi, je connais des professeurs d'université qui ont travaillé à la création de films, à la création de pièces de théâtre, avec les réalisateurs, avec les metteurs en scène, souvent en amont, parfois même pendant. Donc, il y a un vrai apport de l'université qu'on pense qu'il est utile de mettre en valeur pour dire, c'est l'université, c'est pas que... on fait pas de la recherche que pour soi, on l'a fait aussi pour la société... Et voilà, on essaye de redonner cette place à la recherche.
Combien de chercheurs invités pour ce colloque?
Il y en a une quinzaine.
Une quinzaine. qui viennent d'où? Parce que vous avez dit international, mais moi je suis curieux de savoir, parce que c'est en donnant l'origine des invités, on voit la dimension de l'auteur, quoi. Donc ils viennent d'où ces chercheurs?
Alors on aura des interventions même de chercheurs qui viennent du Brésil, ils viennent de partout en France aussi. J'ai peur de dire des bêtises, donc j'ai pas envie de de faire le pari de dire une nationalité et de me tromper. Mais parce que ce colloque n'est pas organisé par moi, il est organisé par Anne-Marie Calais-Bianco, qui est, selon le dire de ses collègues, la plus grande spécialiste de Dumas en France, mm-hmm. et qui est angevine, qui travaille à l'Estuaire. Et son collègue Sylvain Leda, qui organise ça, c'est-à-dire qu'ils font... ils font un appel et il y a des professeurs chercheurs qui répondent à cet appel, qui viennent parfois même avec des étudiants en thèse pour faire ces interventions-là, pour mettre en commun un savoir et aussi c'est aussi l'occasion ces colloques, et c'est moi j'adore être spectateur de ça, c'est une occasion aussi d'innover au présent, c'est-à-dire on voit parfois des choses qui se passent entre les chercheurs. Des idées qui émergent, des débats, des fois même ça peut être un peu rock'n'roll. Et ça, de voir des gens qui sont, même sur n'importe quel sujet, mais qui sont passionnés par quelque chose, qui sont un peu geeks de leur sujet, s'échanger des idées, avoir des révélations, être de nouveau surpris, c'est superbe.
Pour utiliser un terme bien français, un work in progress.
Bien français.
Voilà. Je me réjouis de cette langue que je maîtrise, de cette langue de Molière que je maîtrise parfaitement. On peut trouver toutes les informations sur ce colloque où?
Sur le site de l'Université d'Angers.
Si on tape Dumas Voyageur.
Dumas Voyageur.
Ouais.
Oui, c'est dans l'onglet Recherche.
Oui.
Je pense que ça se trouve assez facilement, même. Je suis sûr, si on tape Dumas Voyageur sur Google, Dumas Voyageur Angers, on aura les informations sur le colloque.
Eh ben, merci Simon pour ce retour, ce grand retour dans l'émission Entre les Pages, même si c'est un retour un peu rapide. Merci pour cette intervention. Je pense que c'est important d'éclairer un peu tous ces projets qui se déroulent comme ça sur le territoire. C'est l'objectif de cette émission, c'est de parler d'un territoire qui est vivant, qui produit, qui réfléchit, qui écrit. Mais l'impératif de l'heure m'impose de conclure cette émission. Cet Anjou est quand même un territoire fou, il recèle de véritables trésors. Et cette semaine en est encore le témoin. Dans le monde des revues, sorte dissonance sur le thème de l'enfer, un thème qui colle avec tellement d'à-propos avec la période que traverse la France. Et puis le numéro 64 de la revue Bout du Monde sur le thème de l'Asie du Sud-Est, c'est encore un numéro exceptionnel. Rappelez que ces deux revues d'une immense qualité sont publiées sans publicité n'est vraiment pas vain. Dans le monde de la BD, c'est aujourd'hui la parution de Là où tu vas, le dernier album de Étienne Davodeau, sous-titré Voyage au pays de la mémoire oubliée. Vous dire que la lecture en est indispensable, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Du côté des rendez-vous, vous rappelez que vous devez impérativement vous rendre au Festival de la BD engagée ce week-end, des 11 et 12 octobre. Il faut soutenir ces initiatives de territoire. Ça se passe au Mai-sur-Èvre et vous pourrez même assister à une rencontre avec Sophie Binet, la responsable de la CGT qui vient pour un débat. Et je pense que ce sera fort intéressant. Et le samedi suivant, le 18 octobre, c'est le Repère des héros qui vous invite à deux rencontres. Marc-Antoine Mathieu et Étienne Davodeau, c'est 11 rue Paul Bert à Angers et l'inscription est obligatoire auprès de la librairie. Dire que Marc-Antoine Mathieu et Étienne Davodeau sont incontournables et indispensables à notre vie quotidienne, là aussi, n'est pas nécessaire. Au cours de l'émission, vous avez entendu Gris Cornac qui a chanté « J'ai l'âge de la lune » et Zenton qui a chanté « Riverside ». Je vous recommande et le dernier album de Gris Cornac qui est magnifique et le dernier album de Zenton, tous deux viennent de sortir, qui sont éblouissants. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous sera le mercredi 22 octobre à 17h. Dans quelques instants sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
FM.